Il y a déjà des applications, des utilisations très à propos dans l'industrie alimentaire pour des protéines nouvelles. Nouvelles parce qu'on ne les connaît pas ou qu'on n'a absolument pas l'habitude d'y avoir recours. Pour les utiliser, ces nouvelles protéines, il faut les connaître, en connaître les propriétés. Et là, on entre dans un vaste monde, tout particulièrement lorsqu'il est question de protéines végétales. Lamia Lossine est chercheure à Agriculture et Agroalimentaire Canada en chimie des protéines.
Les protéines, en général, elles ont toutes les mêmes fonctionnalités, sauf que c'est sûr qu'elles sont différentes de celles des viandes, mais elles ont aussi des propriétés technologiques très intéressantes, comme par exemple la solubilité, par exemple également les propriétés émulsifiantes, les propriétés de moussage, et elles sont différentes selon les sources. Donc, on peut utiliser différentes protéines, comme par exemple le blé, il est beaucoup, c'est lui le gluten du blé, avec ses propriétés viscoélastiques, c'est ça qui donne la structure du pain. Et donc, c'est très difficile de remplacer le blé, par exemple, dans certains aliments. Mais par exemple, certaines propriétés de légumineuses, elles ont beaucoup de propriétés de moussage. Par exemple, les protéines de l'orge, c'est elle qui fait qu'il y a un bon moussage dans la bière, ou la protéine de pois également, un pouvoir moussant très élevé, ce qui fait que c'est une protéine qui peut très bien servir, par exemple, dans des crèmes fouettées. Donc, les protéines végétales, il faut connaître leurs propriétés technologiques pour justement pouvoir les utiliser de façon efficiente et obtenir justement la structure ou la texture qu'on veut dans l'aliment.
Donc, pour des transformateurs alimentaires, ce sont des protéines qui offrent énormément de possibilités.
Énormément de possibilités, exactement. Et la beauté avec les protéines végétales, c'est qu'il y a tellement diverses sources qu'on peut justement arriver, en utilisant la bonne protéine, achever la même texture, les mêmes fonctionnalités pour un certain aliment que, par exemple, en utilisant d'autres protéines végétales, les œufs ou le lait, ou les protéines de lait, ou les protéines d'œuf, justement, oui.
En terminant, un petit mot rapide sur deux choses. Les graines de canaries, ça aussi, il y a tout un monde dans ça.
Oui, absolument. Ça, c'est une nouvelle céréale qui vient tout juste d'être approuvée par Santé Canada, mais qui a également beaucoup de potentiel, justement, pour remplacer une partie de la farine. Elle peut également servir à préparer dans divers produits boulangers. Mais l'avantage de la protéine de canaries, c'est que les graines de canaries contiennent jusqu'à 20 % de protéines, donc ce qui est beaucoup plus que la plupart des autres céréales. Mais également, elles ont un bon profil d'acides aminés. Elles contiennent de la tryptophane qui est en général manquant dans les céréales. Et elles présentent des propriétés technologiques intéressantes et également des propriétés bioactives intéressantes.
On les appelle graines de canaries parce que par habitude, on les donnait aux oiseaux.
Exactement. Mais maintenant, ce n'est plus juste pour les oiseaux. Les humains peuvent les consommer.
La caméline aussi, des propriétés extraordinaires.
Exactement. La caméline, c'est une ancienne graine, mais qu'on est en train de redécouvrir justement pour son huile qui est de très bonne qualité, qui contient beaucoup d'oméga-3. D'ailleurs, justement, on avait accepté de remplacer l'huile de poisson dans l'alimentation des poissons avec justement de la caméline. Mais également, elle contient aussi de bonnes protéines qui sont beaucoup moins exploitées présentement, mais il y a avantage à les découvrir parce qu'elles ont un bon profil nutritionnel. Elles ont aussi également une bonne qualité nutritionnelle.
Madame Lossine, merci beaucoup.
Merci à vous.
Lucie Beaulieu est professeure en sciences des aliments à l'Université Laval et coordonnatrice du groupe d'intérêt sur les produits marins de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels. Elle s'intéresse particulièrement aux algues.
Déjà, c'est une ressource qui est renouvelable. Donc, au niveau de la culture de l'algue, on peut le faire de façon durable. Comparativement aux protéines animales, il va y avoir un impact qui est moindre par rapport à son exploitation sur l'environnement. Donc, l'impact est moindre. Les protéines d'algues, il y a un contenu qui est intéressant. Donc, quand on parle de micro-algues ou de macro-algues, donc qui sont des espèces différentes, mais il y a quand même une teneur qui est comparable à ce qu'on peut retrouver dans le soya, dans le lait, dans la viande, en termes de quantité de protéines. Un autre avantage, c'est que, justement, au niveau de ces acides aminés essentiels, donc des acides aminés qu'on doit consommer pour notre alimentation, qui ne sont pas synthétisés par l'organisme, on doit les consommer. Et on en contient quand même beaucoup dans les microalgues par rapport aux œufs, par rapport aux légumineuses. C'est assez comparable en termes d'acides aminés essentiels.
L'extraction des protéines est difficile à partir des algues?
L'extraction des protéines, elle peut être difficile à partir des algues parce que ces protéines, elles sont dans les parois cellulaires ou en tout cas, elles sont quand même rattachées à des composés qui forment la paroi cellulaire comme les polysaccharides, comme des polyphénols. Et le fait d'avoir une liaison entre ces composés et les protéines, ça les rend moins disponibles donc pour aller faire l'extraction de la protéine à partir de la matrice de l'algue.
Mais il y a des procédés, entre autres mécaniques.
Oui, on peut utiliser différents procédés mécaniques. Ça peut être par le broyage, il peut y avoir un traitement par micro-ondes. Il y a des façons aussi, par les hautes pressions, d'aller essayer de briser cette paroi cellulaire-là puis de permettre la libération des protéines.
On utilise déjà des algues dans plusieurs produits.
Oui, il y a quand même plusieurs produits dans lesquels on peut retrouver des algues. Par exemple, dans des jus. Ça existe dans des craquelins également. Ça existe dans du riz. Ça existe dans des pâtes. Il y a plusieurs produits qui sont faits directement à partir d'algues aussi, des pestos, de la reliche. On en incorpore aussi maintenant dans des fromages.
Justement, ça, vous avez travaillé assez spécifiquement là-dessus, la question des fromages avec la fromagerie des Basques. Qu'est-ce que vous avez voulu faire là, avec les fromages et avec quel type de fromage?
En fait, on a étudié les fromages camembert. Dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'était améliorer la conservation aussi du fromage grâce à des algues parce qu'ils peuvent avoir des bienfaits au niveau là, antimicrobien. Donc, le développement de moisissures peut être réduit, par exemple. On voulait ajouter aussi des fibres, une certaine saveur aussi dans le fromage. C'est riche en minéraux également, bon, en protéines, évidemment. Donc, c'est un peu le but là, de notre projet, là, essayer de diversifier aussi les différents fromages dans les fromageries artisanales au Québec.
Vous avez fait des tests avec des algues rouges et des algues brunes. Est-ce qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre?
Au niveau du goût, les deux sont très intéressantes. Il y en a un goût pour l'algue rouge qui est peut-être un petit peu plus goût marin, si je peux dire. Le goût pour l'algue brune est un petit peu plus végétal. Mais en termes d'affinage du fromage, dans les deux cas, ça s'est quand même bien déroulé. On obtient un fromage comparable au témoin qui n'a pas d'algues. Mais l'algue rouge avait peut-être une meilleure texture par rapport à l'algue brune.
Et en terminant, donc, des algues, ça, on en a beaucoup. Il suffit de trouver le moyen et de les extraire et de bien les utiliser.
On en a beaucoup en termes de biomasse disponible. Par exemple, au Québec, si je parle des macro-algues, justement, dans le golfe Saint-Laurent...
Ce qu'on appelle les grandes lasagnes. Là.
Les grandes lasagnes de mer, si vous voulez. Il n'y a pas que des lasagnes de mer, mais oui, on en a en grande quantité. Puis on peut les valoriser davantage en les incorporant dans différents aliments ou même en les transformant pour avoir des produits prêts à manger.
Je rajoute un petit élément. Les algues d'eau douce au Québec, on en décrit plusieurs parce qu'elles sont néfastes à nos lacs. Et ça, c'est pas du tout les mêmes propriétés, là.
Ben, en fait, les microalgues qui vont être des types de cyanobactéries qui peuvent avoir des toxines, ce n'est pas du tout les mêmes microalgues dans lesquelles on va avoir la consommation, là, par exemple, une spiruline ou de la chlorelle.
Merci beaucoup.
Merci.
Alain Doyen est aussi professeur en sciences des aliments à l'Université Laval. Son champ de recherche, les insectes, qui, il faut le reconnaître, se butent à une barrière chez les consommateurs.
La première chose, c'est de faire connaître le produit. De faire connaître le produit en termes de composition, en quoi c'est intéressant nutritionnellement de pouvoir le consommer. C'est de le faire connaître aussi pour ses avantages environnementaux. Puis c'est aussi d'essayer de le faire connaître pour son bon goût. C'est ça, ça va être ça le plus gros challenge, c'est d'en améliorer le goût, d'en améliorer l'odeur, la saveur, pour le faire plus accepté.
Bon, ce sont des insectes. Est-ce qu'on a réussi à trouver une façon de s'assurer que, systématiquement, ces insectes-là n'auront pas de pathogènes, seront sanitairement corrects?
Alors, c'est le problème pour tous les élevages au niveau de la contamination, qu'elle soit microbienne, qu'elle soit fongique, etc. C'est juste de respecter les normes du MAPAC au niveau provincial, de la CIA, de Santé Canada au niveau du fédéral, des bonnes pratiques de manipulation de ces produits-là pour être sûr qu'on ne les contamine pas ou d'appliquer des bons traitements de transformation pour diminuer la contamination. Donc, ça peut être facilement gérable.
Il y a les questions d'allergie aussi.
À mon avis, c'est le plus gros challenge qui attend les transformateurs et producteurs d'insectes. Il faut sensibiliser le public à ça. Il faut que le public sache qu'il est possible qu'il y ait des cas d'allergénicité en consommant des protéines d'insectes ou des matrices d'insectes. Et ça, je pense que ça va passer par des aspects réglementaires comme il s'en vient en Europe pour l'Amérique du Nord.
Par contre, une fois réglés des problèmes comme ceux-là, pour les transformateurs alimentaires, est-ce qu'on peut dire que les protéines d'insectes sont exclusives, permettent des choses qu'on n'obtiendrait pas avec d'autres types de protéines?
Non, on ne peut pas dire ça. Chaque protéine a ses avantages, ses inconvénients. Les protéines de viande, les protéines végétales, les protéines d'insectes, les protéines d'algues. Certaines ont des teneurs en acides aminés plus importantes que d'autres. D'autres ont des structures plus intéressantes pour la transformation. Donc non, ce n'est pas une protéine qui va ressortir du lot. Il faut juste connaître toutes ses propriétés pour l'inclure dans des aliments dont le consommateur pourrait être intéressé.
Donc on se prépare, parce que pour l'instant, la protéine d'insectes est assez coûteuse.
La protéine d'insecte est assez coûteuse. On voit l'épicerie entre de la poudre de grillon qui est juste à côté, par exemple, de la farine de blé. Le coût varie du simple au double, voire au triple. Parce que la demande n'est pas encore assez importante, parce que l'industrie n'est pas encore automatisée. Il faut beaucoup de manœuvre pour la produire.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Mais quelques entreprises incorporent des insectes dans les produits qu'elles commercialisent. C'est le cas de Melio, avec ses pâtes à la farine de grillon. Jean-Philippe Bisson est cofondateur de Melio. Poser un geste environnemental, c'est bien, mais il faut aussi que les pâtes soient bonnes.
L'utilisation de protéines ou de poudre de grillon, c'est quelque chose qui est comme un autre aliment. Donc, leur production est soumise à des normes similaires au restant des aliments, mais une fois qu'ils respectent ces normes-là, c'est traité comme un aliment qui est éligible à la consommation.
Donc, ça ne doit pas être un frein pour des gens qui hésiteraient, qui seraient un peu inquiets. Par contre, pour une entreprise comme la vôtre, ça veut dire qu'il faut trouver une façon de rendre peut-être plus agréable au goût vos produits. Donc, le travail que vous avez fait chez vous, chez Melio, ça visait aussi à rendre le produit agréable, si on veut.
Bien, on n'a pas le choix. Dans le fond, nous, on préconise un changement d'habitude de consommation. Donc, si jamais le produit n'est pas, le goût n'est pas au rendez-vous, bien, les gens, c'est purement possible de croire qu'ils vont changer leurs habitudes pour quelque chose qui n'apprécie pas le goût. Donc, on a beaucoup travaillé justement avec les différents ingrédients pour développer une recette de pâte qui est bonne au goût, puis que les gens, justement, ça leur plaise, puis ça correspond à une bonne alternative.
Et c'est un bon argument de vente également, le fait qu'on pose un geste pour l'environnement.
Il y a beaucoup de gens, c'est ça qui les motive le plus, dans le sens qu'ils deviennent de plus en plus conscientisés de l'impact de leur alimentation, puis ils veulent changer leurs habitudes. Donc, le grillon, c'est, bien, on appelle souvent ça la nourriture du futur, parce que justement, c'est tellement nutritif, puis ça a tellement un bilan environnemental qui est plus faible que c'est un bon geste à poser, justement, que ça devienne de plus en plus accessible.
Merci beaucoup.
Bien, merci à vous.
Et comment se comporte le marché face à un éventail de plus en plus varié de protéines? Francis Parisien est vice-président pour l'Est du Canada pour la maison Nielsen. Monsieur Parisien, on est dans un marché qui cherche de la protéine.
Exactement. C'est confirmé. On le voit dans les chiffres. Il y a de la croissance au niveau des catégories qui présentent une haute teneur de protéines.
Et particulièrement la protéine végétale ou c'est une croissance globale?
C'est une croissance globale. Il y a une recherche de protéines des consommateurs canadiens.
Et la croissance est un peu plus rapide dans le végétal que dans l'animal?
C'est un peu plus rapide. On parle de plus petites bases ou des plus petites ventes, mais c'est certain qu'il y a une recherche de protéines végétales dans le marché, là, comme les chiffres le démontrent.
Vous n'avez pas encore de données, ça se comprend, sur l'impact de la nouvelle version du Guide alimentaire canadien, mais vous allez vous pencher spécifiquement sur ce que ça peut influer comme tendance sur le marché?
Oui, totalement. Mais ça va avoir beaucoup d'impact sur plusieurs gros transformateurs québécois. Ça fait que c'est certain que chez Nielsen, on va regarder ce qui va se passer avec ça. Ça me ferait plaisir même de vous partager les chiffres là, quand ça va être disponible.
Donc, assez rapidement, vous allez travailler là-dessus?
Oui, on travaille là-dessus présentement.
Lorsqu'on parle de protéines comme les grillons, les algues, des choses comme ça, les insectes de façon générale, ça aussi, il n'y a pas encore de données sur le marché.
Il n'y a pas vraiment de données. Puis le peu qu'on a, c'est vous pourriez savoir tout de suite de quel joueur qu'on parle. Donc, on préfère ne pas en parler publiquement, mais en ce moment, on voit qu'il y a de la croissance, mais on va vous en parler dans un an.
Merci.
Merci à vous.
Animatrice de la rencontre, la nutritionniste Julie Desgroseillers croit que l'idéal est de varier les sources de protéines en insistant sur celles d'origine végétale. Julie Desgroseillers, lorsqu'on parle d'alimentation, on parle de protéines. Absolument, c'est essentiel.
En fait, les protéines, tout comme les autres macronutriments, c'est-à-dire les matières grasses, les glucides, sont essentiels à la santé. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on reconnaît les bienfaits d'introduire plus de végétaux à son alimentation, donc plus de protéines d'origine végétale.
De là l'utilité d'un colloque comme ce matin ici, parce qu'on regarde tout un éventail de protéines nouvelles qui ne sont pas encore très répandues aussi.
Tout à fait. En fait, encore ce matin, j'ai appris des choses. C'est vraiment un milieu en effervescence et il y a quelques années, quand on parlait de protéines végétales, les gens avaient dans la tête tofu, légumineuses. Mais maintenant, il y a tellement d'autres alternatives. On parlait d'algues ce matin. C'est des sources de plus en plus intéressantes. On parle d'insectes, de grillons, chose qu'on ne parlait pas il y a plusieurs années. Donc, c'est vraiment intéressant pour le consommateur en termes de variété, mais c'est intéressant pour l'industrie parce que ça leur ouvre une porte sur des possibilités d'innovation extrêmement grandes.
Il y a quelque chose d'intéressant que vous avez souligné. Bon, il y a les trois protéines magiques, là, quinoa, sarrasin et soya.
Oui.
Mais vous dites également qu'il est possible, même pour un végétalien, d'avoir suffisamment de protéines en variant les sources de façon à ne pas avoir recours à des protéines de viande.
Souvent, c'est la question qu'on nous pose comme nutritionniste. Est-ce que je peux vraiment combler mes besoins en protéines si j'exclus la viande ou toute source de protéines animales? Puis la réponse, c'est oui. D'abord, vous l'avez mentionné, Lionel, tout ce qui est soya, sarrasin et quinoa, ce sont des protéines végétales, mais complètes, au même titre que toutes les autres protéines animales. Donc déjà là, en optant pour ces trois sources de protéines végétales-là, on va chercher tous les acides aminés que notre corps a besoin. Et sinon, à travers la journée, quand on consomme différentes protéines incomplètes, on finit par aller chercher tous les acides aminés dont notre corps a besoin. Et comme on l'a mentionné, et M. Parisien aussi l'a mentionné, ça, on pense à des athlètes comme les Sarah Williams, à Carl Lewis, qui sont des athlètes végétaliens et qui performent comme des stars. Donc, on n'a pas besoin pour être en santé, pour bien performer, de protéines animales. Est-ce qu'on est obligé de les exclure? Pas du tout. C'est une question personnelle, mais on peut très bien être en santé, qu'on soit un enfant, une femme enceinte, un athlète, de consommer uniquement des protéines d'origine végétale.
Et c'est bon que vous le disiez parce que vous avez ajouté ça. C'est pas un plaidoyer pour l'abandon des protéines de viande, là.
Non, pas du tout. Puis, tu sais, bien manger, c'est vraiment une question personnelle. Sauf qu'on réalise de plus en plus que c'est gagnant, autant pour la santé humaine que la santé environnementale, de réduire tranquillement sa consommation de viande pour faire place à plus de végétaux. Et on a un bon modèle avec le nouveau guide alimentaire canadien qui nous encourage aussi dans ce sens-là.
Merci beaucoup.
Ça fait plaisir.
Ici Lionel Levac. Cet événement du CETAC, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, sur les protéines alternatives, aura aussi abordé les questions de réglementation avec Marie-France Cordeau de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour les nouvelles protéines, s'appliquent essentiellement les mêmes lois et règlements que pour l'ensemble des aliments. L'étiquetage doit aussi être abordé avec attention, particulièrement lorsqu'il y a possibilité d'allergie. Et au fur et à mesure que l'usage de nouvelles protéines va augmenter, il est pensable que certains règlements soient ajustés ou précisés. Au revoir.